Alors, si vous voulez vous lever, on va lire le chapitre 49 du livre de la Genèse, les versets 1 à 21. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. » Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos. Certaines versions vont dire le silo. Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse, et dans le sang des raisins son manteau. Il a des yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Donc, vous pouvez vous asseoir. Simplement rappeler que Jacob était rendu à la fin de sa vie et il était rendu à l'âge de 147 ans selon les Écritures. On peut le lire dans le chapitre 47 du livre de la Genèse au verset 28. Il était rendu à 147 ans. Vous pouvez très certainement être assez vieux pour comprendre que les dernières paroles de quelqu'un qui est mourant sont des paroles très significatives. Disons, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, sont sur le bord de mourir. Les dernières paroles qu'ils vont dire normalement témoignent de où ce qui est leur cœur. N'est-ce pas? Alors, ici, on a un homme de 147 ans qui a vécu une vie très riche d'expériences et très riche aussi d'expériences qui sont à la fois amères et à la fois bénissantes. Si on regarderait la vie de Jacob dans tous les derniers chapitres qu'on a lus à partir des derniers chapitres qu'on a lus dans la Genèse, on verrait qu'il a subi des expériences amères dans le sens que il a souffert beaucoup, puis il a subi aussi des expériences bénissantes. Il a été abondamment béni par le Seigneur. Le Seigneur, quand il nous prend puis qu'il nous sauve, il nous prend, on est d'une certaine façon lorsqu'il vient nous chercher. Mais il ne nous laisse pas comme ça. Il nous transforme, il nous rend meilleur, il nous enlève certains défauts qu'on a et il nous améliore de plus en plus, de mieux en mieux. Et Jacob avait des méchants défauts. Alors, on ne retournera pas dans tout ça parce qu'il faudrait revoir plusieurs chapitres en arrière. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire n'importe quoi. Il l'a corrigé, il lui a fait vivre des expériences difficiles. Là, il est sur son lit de mort. Et il rassemble ses enfants, il y en a 12, et il veut les bénir. Il va les bénir d'une façon très particulière parce que chacun va recevoir une bénédiction différente l'un des autres. Un peu comme nous, si on mourrait, qu'on ferait venir nos enfants au pied de notre lit, on ne pourra pas nécessairement dire la même bénédiction à un et à l'autre, parce qu'ils sont différents. Mais à cette époque-là, ce n'était pas différent de nos jours. Les enfants étaient différents et ils avaient fait des choses différentes dans leur vie et le Seigneur les bénit tous d'une façon différente. Ce qui est difficile, le verset, j'avoue que le chapitre 49 du livre de Genèse, c'est pas le chapitre le plus facile de la Bible à comprendre. À cause qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a de la prophétie. Donc, Dieu est en train de dire par Jacob aux enfants qu'est-ce qui va leur arriver dans l'avenir. Et si vous prendriez chacune des promesses qui sont faites ici, pour chacun des enfants, puis vous feriez le tour de toute la Bible pour regarder, voir si ces choses-là vont s'accomplir, vous verriez qu'ils vont toutes s'accomplir. Alors, il y a de la prophétie. La prophétie, ça veut dire que tu vois dans l'avenir. Qui peut voir dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent voir dans l'avenir?
Non.
Aucun homme. Quand ils disent qu'ils voient dans l'avenir, c'est des mensonges. Ceux qui font de l'astrologie, toutes ces affaires-là, c'est du mensonge. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit, Dieu, connaît l'avenir de tout individu, connaît l'avenir de toute nation, connaît l'avenir sur toute chose. Donc, à quelque part, quand le Père, Jacob, il bénit ses enfants et leur prédit l'avenir, c'est parce que le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est venu lui l'informer de l'avenir de ses enfants. Alors, il y a là-dedans, il y a du langage poétique. La poésie, ça ne se comprend pas de la même manière. Si vous écrivez un poème, souvent la poésie, ça a un aspect, ça évoque. C'est pas précis comme quand je dis « mon auto est à l'extérieur », puis elle est bleue. T'sais, c'est très précis, vous pouvez le retrouver. Mais la poésie, c'est de prendre un mot qui veut dire plusieurs choses, qui évoque des idées, qui évoque des symboles. C'est plein de symboles à l'intérieur de ça. C'est ce qui rend le chapitre 49 difficile à comprendre, parce que tout ça, là, quand on l'a lu tout à l'heure, les dents blanches de lait, du vin, des anges, il dit « t'es un ange », puis là, il parle de serpent. On est un petit peu égaré si on ne fait pas une étude. Genèse 49, si tu veux vraiment bien comprendre, il faut que tu l'étudies. Puis il y a plein de livres pour nous aider à le faire. Alors, la Bible est super intéressante. C'est un passage où on pourrait passer des semaines et des semaines et des semaines à étudier, tellement il est riche. Alors, faut pas se décourager si on lit chapitre 49 de la Genèse, puis qu'on dit après, « Oh, ben là, moi, j'ai rien compris. » Ça se peut que tu n'aies pas compris grand-chose. Mais si tu ne fais pas un effort, tu ne l'apprendras pas non plus. T'es un peu comme n'importe quel métier. Il y a toutes sortes de métiers dans la vie, mais tu n'apprends pas un métier sans faire d'efforts. Peu importe le métier que tu vas apprendre dans ta vie, il faut que tu fasses des efforts pour l'apprendre. Mais c'est la même chose dans le livre de la Genèse. Alors, donc, il y a de la poésie dans ce chapitre-là. Il y a aussi du symbole, beaucoup de symboles, et il y a aussi de la prophétie, donc, prédire l'avenir concernant les enfants. Donc, ça implique que Jacob ne parle pas, il ne pète pas de la boue à travers son chapeau, autrement dit. Il dit des choses sur l'avenir de ses enfants parce que Dieu le lui a révélé. Et que là, maintenant, il peut dire à ses enfants, voici ce qui va t'arriver dans l'avenir. Parce que Dieu lui a montré. Alors, on avait vu dans le chapitre, dans ce qu'on a lu jusqu'au verset 21, que Jacob, il y a deux choses qu'il fait là-dedans. Il fait des bénédictions, il dit à ses enfants, il leur donne des très grandes bénédictions, et aussi, il y a des endroits où il y a une malédiction. Comme quand il parle de la colère, il dit « Maudite soit leur colère ». Quand tu dis à quelqu'un « maudit », tu n'es pas en train de le bénir. « Maudit », mais là, il ne maudit pas ses enfants. Il maudit le péché de la colère. Ce n'est pas tout à fait la même affaire. Alors, la prophétie du chapitre 49, elle est triple. Elle est centrée sur le futur de la jeune nation naissante d'Israël. Israël, là, que ça a commencé, c'était 12 individus, 12 enfants, ils appellent les 12 tribus d'Israël. C'est la naissance, le début de la nation d'Israël. Alors, il est en train de dire, comme nation, comme tribu, voici ce qui va vous arriver dans l'avenir. Donc, ça parle de ça. Deuxièmement, ça parle aussi de la venue futur du Christ, parce que quand il parle de Juda là-dedans, il parle du silo ou du repos, on va le voir tantôt. Il est en train de parler qu'un jour le Messie va venir et il est en train de parler de la venue de Jésus-Christ. Et il est en train aussi de parler des bénéfices de la venue du Messie sur la terre, à la fois sur la nation d'Israël et à la fois sur l'ensemble des hommes. Donc, on va réviser rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. Les paroles de Jacob, il s'adresse à ses 12 fils en général. Il les a ramassés au pied de son lit et il veut leur dire ce qui va leur arriver. Alors, dans les versets 1 et 2, il leur parle comme groupe en général. Ensuite, il va y aller individu par individu. Alors, ça dit, et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous déclarerai ce qui arrivera dans la suite des jours. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Très intéressant. Alors, là-dedans, il y a deux choses à remarquer, on avait vu la dernière fois. Il y a une fois qui s'appelle Jacob, puis il y a une autre fois qui s'appelle Israël. Pourquoi il utilise deux noms pour parler de lui-même? Parce que Jacob, c'est le nom, ceux qui se souviennent quand on a lu les leçons passées, c'était le supplanteur. Son nom veut dire le supplanteur. Il avait vraiment trompé son père dans l'histoire et il avait été obligé de s'expatrier, d'aller pendant 20 ans. En tout cas, on ne retombera pas dans toute l'histoire, là, mais il était le supplanteur. C'est un nom qui veut dire combien il était avant. Israël, c'est un nom que Dieu lui avait donné, qui était le nouveau nom qu'il devait porter dorénavant. On le voit dans Genèse 35. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom, et il lui donna le nom d'Israël. Très intéressant de voir que souvent on va lire ces passages-là, on porte attention à ça. C'est une erreur. Parce que quand on lit et qu'on porte attention à ces différences-là, Dieu est en train de dire quelque chose, il est en train d'enseigner quelque chose. Donc, les 12 fils de Jacob vont devenir les 12 tribus d'Israël. Ça commence par un individu, lui a des enfants, les enfants ont des enfants. Ça a fini par former la grande nation qu'on appelle aujourd'hui Israël. Alors, dans le Genèse, dans le verset 28 de Genèse 49, ça nous dit, « Tous ceux-là sont les chefs des 12 tribus d'Israël, et c'est ce que leur dit leur père en les bénissant. Il bénit chacun d'eux de la bénédiction qui leur était propre. » Autrement dit, après avoir parlé à l'ensemble, il va parler à chacun en particulier. Et selon vous, c'est-tu normal qu'il commence par le plus vieux? Oui, il commence par le plus vieux. Et le plus vieux, quand on se souvient des enfants, on se souvient de l'histoire de Léa, on se souvient de l'histoire de Rachel. Lui, il avait travaillé 7 ans pour avoir Rachel parce qu'il était amoureux de Rachel. Mais Laban lui avait fait, il avait passé une petite vite, autrement dit. Il avait passé sa fille Léa en lui faisant croire que c'était Rachel. Donc, ça a pris 14 ans avant d'avoir les deux femmes. Donc, il y a eu deux femmes. Et entre-temps, si on se souvient de toute l'histoire, les servantes des deux, la servante de Rachel et la servante de Léa, il y a eu des enfants avec les servantes. Donc, Jacob a eu quatre femmes. Les deux femmes légitimes et les femmes des servantes. Donc, il commence avec le verset 3 et 4. Là, il parle à Ruben, il parle au plus vieux. Il dit, « Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité et prééminence de puissance. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras point la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. » Autrement dit, il était le plus vieux de la famille, mais le problème qu'il y a avec lui, c'est qu'il a couché avec la femme de son père. Oh! Jacob, il n'a pas aimé ça. Parce que c'est un très, très grave péché. Et il lui dit, « Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras point la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. » Autrement dit, c'est à quoi les péchés de Ruben? Il y en avait plusieurs. Il y avait l'inceste, coucher avec quelqu'un de ta famille, dans la même famille, un père qui couche avec sa fille, ou un frère qui couche avec sa sœur. Ça, on appelle ça de l'inceste. Donc, lui, il couchait avec la femme de son père. Donc, il y avait un péché d'inceste dans sa vie. Il y avait un péché d'adultère, parce qu'il était lui-même marié lorsqu'il a couché avec la femme de son père. Alors, il est en train de lui dire ici qu'à cause du péché qu'il a fait, il va perdre son droit d'aînesse. Et si on ne fait pas une petite révision de ce que c'est le droit d'aînesse, puis qu'est-ce que ça lui donnait, on ne se rend pas compte de ce qu'il perdait. On les révise très rapidement. L'aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions contenues dans les promesses de l'Alliance. Là, il faudrait reculer aussi loin qu'à Abraham. Dieu avait fait dans l'Alliance une alliance avec les patriarches en leur promettant une terre, en leur promettant la venue du Messie et plein d'autres promesses. Et ça se transmettait du père au plus vieux. Tout le temps comme ça. Et lui, à cause du fait qu'il était le plus vieux, il aurait dû recevoir les promesses de l'alliance que Dieu avait fait avec son père et son grand-père. Mais à cause du fait qu'il a couché avec la femme de son père, il perd tout ça. Deuxième chose qu'il recevait comme aîné, c'était l'autorité du père sur ses frères. Troisième chose, il devenait automatiquement un maillon dans la chaîne des descendants qui donnerait le jour au Messie. Quatrièmement, il recevait une double portion de l'héritage paternel. Cinquièmement, il agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu. Sixièmement, il recevait l'héritage terrestre. Et septièmement, il jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes. Et on apprend dans 1 Chronique, c'est bizarre des fois la Bible comment ça marche, on peut lire ce passage-là. Et là, on peut se poser la question, ouais, mais si Ruben, il l'a perdu son droit d'aînesse, c'est qui l'héritait sa place? Moi, j'avais toujours pensé que c'était le suivant. Puis, c'est en préparant ma leçon que je me suis rendu compte qu'en lisant 1 Chronique, c'est rare qu'on lit 1 Chronique, hein? C'est toutes des énumérations de noms. On trouve ça difficile quand on arrive à ce passage-là. Pourtant, c'est important parce qu'il y a des choses importantes qui nous sont dites là. 1 Chronique, chapitre 5, versets 1 et 2. Ça se dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais pour avoir souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, non toutefois pour être enregistré dans les généalogies selon le droit d'aînesse, car Judas fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. » Bon, OK, Lui était le premier-né de la première femme, Léa. Léa en a eu combien? 6. Elle en a eu 6. Et la deuxième femme, qui était Rachel, elle en a eu combien? 2. C'est à qui les deux? Joseph le premier, deuxième Benjamin. Le reste était des enfants que Jacob a eus avec les servantes de ces deux femmes-là. Voyez-vous, le premier, qui est Ruben, le premier enfant de la femme, la première femme de Jacob, il a perdu son droit d'aînesse. Donc, le droit d'aînesse a été transféré au premier-né de la deuxième femme, qui était Rachel. Très intéressant. Comme je vous dis, Genèse 49, on va avoir fait deux leçons dessus. Puis je dis ça, là, je peux vous garantir qu'il y a tellement de matériel dans ce chapitre-là que vous pourriez passer des mois à l'étudier. Tellement il y a du stock là-dedans, c'est riche. Alors, on fait juste voir les grandes lignes pour essayer de comprendre un peu la bénédiction que Jacob donnait à ses enfants. Maintenant, il a parlé des péchés de Ruben. Maintenant, il va passer à deux autres de ses fils, qui sont Siméon et Lévi. Si vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec Dinah, parce qu'il y a eu 12 garçons, il y a eu une fille, elle s'appelait Dinah. Un moment donné, Dinah est sortie pour aller voir les gens du pays. Elle s'est faite violer. En se faisant violer, ses frères n'ont pas aimé ça. Et ont décidé de conter des mensonges aux gens. Parce que le jeune prince qui l'avait violée, il est tombé en amour avec, puis il a dit, ben, j'aimerais ça que tu me donnes la main de la fille pour que je puisse la marier. L'autre, ils ont dit, OK, tu veux marier notre sœur, OK. Bien, si tu veux marier notre sœur, vous allez être obligé, tout votre petit groupe, votre nation, là, vous allez être obligé de tout vous faire circoncire. La circoncision, à cette époque-là, c'était pas comme les hôpitaux aujourd'hui. Là, c'était assez c'était douloureux. Ils ont accepté. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient en douleur, les deux leaders, Siméon et Lévi, se sont levés et ont dit « Ah oui, vous avez voulu violer ma sœur. » Ils ont toutes tués au fil de l'épée. Et c'est de ça ici que Jacob est en train de se rappeler concernant l'avenir de ses deux fils-là. Sur Siméon et Lévi, versets 5 à 7, il dit « Siméon et Lévi sont frères. » Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Il savait qu'ils étaient des frères. Frères dans la manière de penser, dans la manière d'agir. C'est pour ça qu'il dit « Siméon et Lévi sont frères. » Leurs glaives sont des instruments de violence. Il est en train de dire « Mes deux fils, vous êtes encore dans la nation d'Israël, vous allez jouir de tous les bénéfices qui sont rattachés à ça. Cependant, vous avez été des violents. » Et il est en train de... C'est rien que pour dire que la Bible ne cache pas les péchés des hommes. Hein. Et ça dit, « Que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut violente, et leur fureur, car elle fut cruelle. Je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. » Il est en train de dire à ses fils, « Vous avez été des hommes violents, et à cause de ça, il va y avoir des conséquences à tout ça. Vos deux tribus vont être dispersées. » Alors, les péchés de Siméon et de Lévi ont été très nombreux. Quels sont ces péchés-là? Violence, colère, cruauté, vengeance, tromperie et meurtre. C'est quand même bizarre, la jeune nation d'Israël qui est en train de naître, il y a deux individus qui vont devenir des chefs de tribus qui ont ce caractère-là. Alors, le jugement de Jacob sur les péchés de ses enfants est très rigoureux. Aimeriez-vous ça que votre père, sur son lit de mort, vous reproche des péchés pareils? Moi, j'aimerais pas ça, en tout cas. J'aimerais vraiment pas ça. Et son jugement est rigoureux et sévère. Jacob veut se dissocier des actions de ces deux enfants-là de façon très catégorique. Fait qu'il leur dit, maudite soit leur colère. Il ne voit pas que le dos de la cuillère, comme on dit. Ils sont lits de mort. Faut penser à ça, là. Si nous, on serait au pied du lit de notre père, que notre père aurait des paroles sévères comme ça envers nous, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Votre comportement est inacceptable et jamais je n'accepterai ce comportement-là. Pas qu'il rejetait ses enfants, il ne les rejetait pas, mais il rejetait leur péché de colère et de vengeance et de violence. Il voulait complètement se dissocier de tout cela. Et là, on arrive sur Judas. C'est intéressant. De quelle tribu vient le Seigneur Jésus-Christ? Judas. Et là, il va être en train de dire des choses sur l'avenir de la tribu de Judas. Des choses très bénissantes parce que c'est de cette tribu-là que va venir le Seigneur Jésus-Christ. Alors voici ce qu'il leur dit. « Toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils. Il s'est courbé, il s'est couché, comme un lion, comme un vieux lion. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, qui veut dire repos ou pacificateur, à lui l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son anon, et au sceptre choisi, le petit de son ânesse, il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux brillants de vin et les dents blanches de lait. » Alors, quand vous étudiez un petit peu en analysant le contenu de ce qui est dit, il y a quatre choses qui sont dites à Judas. Premièrement, il va gagner la louange et le respect de ses frères. Verset 8. Deuxièmement, il va devenir le type du héros victorieux. Autrement dit, il le compare à un lion. Quand nous, on regarde un lion, la nature, on dit quoi d'un lion? Le roi des animaux. On dit que c'est l'animal le plus puissant, qu'il n'a pas peur de rien. Et à qui on compare Jésus dans l'Apocalypse?
Un lion.
Il vient de la tribu de Judas. Et on va aller dans l'Apocalypse 5, Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion qui est de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sceaux. Alors ici, on est en train, on va le lire au complet, mais je trouve que les cinq premiers versets d'Apocalypse 5 sont très intéressants. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurai beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et c'est là qu'on a le verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion qui est de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre en délier les sceaux. Autrement dit, quand on regarde ici, là, le livre, c'est Dieu qui est en train de démontrer ce que Jésus va faire dans l'avenir. Et il n'y a personne qui est capable de lire le livre, de le comprendre. Et là, l'ange lui dit, un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion. Autrement dit, Jésus-Christ, lui, il va y aller, il va le prendre le livre, il va l'ouvrir, il va le lire, et il va le comprendre. parce que c'est Jésus, le Père lui donne à Jésus la capacité de comprendre. La troisième bénédiction, donc il deviendra le type du héros victorieux, le lion. Et la troisième bénédiction, c'est qu'il deviendra le type du Messie. Quand on parle là-dedans, le sceptre et le bâton. Un sceptre, savez-vous, c'est quoi? Un roi, là, quand il a sa couronne, il y a deux choses qui représentent la royauté, des symboles royaux. C'est la couronne. Vous parlez d'un roi, il y a toujours une couronne. Un roi, une couronne. Mais il y a toujours une autre chose aussi qui est avec sa couronne. C'est son sceptre. C'était comme un genre de grand bâton qu'il tenait à la main. Et c'est le symbole que j'ai le brelon, autrement dit. Le roi a le brelon. Tu sais, des fois, on dit, il y a le brelon, cet homme-là. Ben, un sceptre, c'est un symbole de règne. Tu règnes avec ton bâton. Ton sceptre et ton bâton. Alors, quelque part, c'est important de réaliser ça ici, dans le verset 10. Il dit, le sceptre, autrement dit, le fait que tu vas régner, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses jusqu'à ce que vienne le silo. Et quand vous lisez les commentaires, vous essayez de comprendre, c'est quoi le silo? Nous autres, on comprend le silo comme étant un endroit où on met du bledin. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. C'est pas de silo-là qu'on parle. C'est le mot hébreu, shilo, le shilo. Shilo, c'est, est en train de dire jusqu'à ce que vienne le Messie. Jusqu'à ce que vienne le Jésus-Christ. Puis lui, après ça, il dit, à lui, l'obéissance des peuples. Autrement dit, il est en train de dire que le Messie qui va venir va être capable d'avoir l'obéissance des peuples sans force. Sans que ce soit la force qui fait en sorte qu'il y ait de la puissance. Va avoir l'obéissance volontaire des peuples qui sera basée sur l'amour et non sur la force. Et dans le verset 12, 11 et 12, il parle de la prospérité matérielle que cette tribu-là va avoir en parlant de vin et de lait. Dans les Écritures, le vin et le lait sont deux symboles. Si vous allez, déjà, par exemple, dans Ésaïe, chapitre 55, on va juste lire le verset 1. « Ô vous tous qui êtes altérés. » Ça veut dire quoi, être altéré? Avoir soif. Ou, c'est comme s'il disait « Ô vous tous qui avez soif. Venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez et achetez et mangez. » Acheter, tu n'as pas d'argent. Il y a comme un petit problème, ça, hein? Il dit « Venez. » Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Il est en train de parler que le vin et le lait, ça représente Jésus-Christ. Alors, quelque part, c'est très intéressant de lire ces choses-là. Après ça, on tombe sur Zabulon. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur Judas, c'est tellement riche. Sur Zabulon, dans le verset 13, il dit Zabulon, c'est un nom. C'est drôle, aujourd'hui, il n'y a plus bien de monde qui s'appelle Zabulon, hein. Mais à cette époque-là, c'était un nom. Il dit Zabulon habitera au rivage des mers, il sera au rivage des navires, et sa côte s'étendra vers Sidon. Il est en train de parler d'un des fils qui dit qu'une des caractéristiques de cette tribu-là, ça va être d'être proche de la mer, puis de faire du commerce de bateaux, autrement dit. Alors, la tribu de Zabulon, si vous regardez dans les Écritures, dans le reste des Écritures où on voit leur avenir, c'est une tribu qui a été maritime, puis qui a été caractérisée par les poursuites commerciales. Autrement dit, c'est des gens qui étaient sur le bord de la mer, puis qui faisaient du commerce en bateau avec d'autres endroits. Est-ce que vous croyez que l'endroit où on vit, sur la terre, c'est un endroit que le Seigneur a déterminé d'avance pour nous?
Oui.
Comme moi, je suis à Lac-Mégantic, il y a une raison pour que je pourrais être ailleurs, comme vous autres aussi, vous êtes ailleurs. Il y en a qui sont nés, j'en vois un devant moi, là, qui est originaire de Québec. Mais comment ça qu'il est à Mégantic? C'est parce que le Seigneur l'a décrété. Aussi simple que ça. Acte 17, versets 24 à 26. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races de la terre pour habiter sur toute la face de la terre. Et regardez la fin du verset 26. Ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Non seulement il parle des nations, autrement dit, les nations, ils vont avoir des limites, un peu comme quand je traverse aux États-Unis, j'arrive aux douanes, je passe pas là, c'est je change de pays. Mais Dieu dit que c'est lui qui a déterminé deux choses. La durée précise et les bornes de leur habitation. Non seulement pour les nations qui ont déterminé ça, la France, ça va être telle place, ça va être telle, l'Allemagne, ça va être... Il a tout déterminé pour toutes les nations de la Terre. Et il a fait la même chose pour les individus. Dieu sait toute ta vie jusqu'à la fin. Là, je suis à Mégantic. Est-ce que je vais mourir à Mégantic? Je ne sais pas. Mais le Seigneur, lui, il sait. Parce qu'il a déterminé la durée et la borne de mes habitations à moi. Comme la vôtre. Après ça, il s'en va sur Issachar. Il dit, Issachar est un âne robuste, couché entre les barres des étables. Il a vu que le repos était bon et que le pays était délicieux. Et il a baissé son épaule pour porter et il s'est assujetti aux tribus. Autrement dit, sur Issachar, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que leurs descendants de cette tribu-là vont être des gens industrieux. Industrieux, ça veut dire que t'es des vaillants, des travaillants. Et ils vont être engagés dans l'agriculture. Parce qu'il parle d'eux comme étant un âne robuste et docile. Et il va s'acquitter, les descendants de la tribu d'Issachar vont s'acquitter vaillamment des travaux qu'on leur confiera et ils aimeront la campagne. On pourrait tellement là, prendre juste sur Issachar, puis aller voir dans le reste des Écritures, est-ce que ce qui est dit ici s'accomplit? Mm-hmm. Allez voir, que, si vous prenez la peine de le faire, c'est sûr que ça va arriver. Alors, Issachar. Et là, après ça, on parle des fils des servantes. Là, on a commencé, on en a passé 6, et là, il va en passer 4 autres, ça va faire 10. Et à partir du verset 22, là, on parle de Joseph et de Benjamin. Alors, on va voir que sur Joseph, les bénédictions pleuvent, comme on dit. Il est en train de dire que la tribu de Joseph elle, va être abondamment bénie. Mais là, on termine en verset 21, donc autrement dit, il passe les 10 premiers enfants. Les 6 de Léa et les 4 des deux femmes des servantes. Alors on tombe sur les servantes. Chose intéressante, dans le verset sur Dan, lorsqu'il parle de l'avenir de Dan, qui se trouve à être le 5e fils de la servante de Rachel, qui s'appelait Bila, et qui se trouve à être la 3e épouse. C'est dur à suivre, hein? C'est un petit peu, ça fait beaucoup de monde maintenant. Mais il reste que, si on porte attention, c'est tellement intéressant. Et ici, il utilise un langage que si on se donne pas la peine de fouiller, on comprend pas vraiment ce qu'il veut dire. Il parle de Dan. Il dit, que Dan soit un serpent sur le chemin. Il est en train de parler d'un de ses fils, puis il dit, que toi, tu vas être un serpent. Oh, c'est pas un compliment, hein? Un séraste, dans ma version à moi, c'est un séraste, dans le sentier, mordant les pâturons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. Et verset 18, j'ai attendu ton salut, ô Éternel. Et là, j'ai pris la peine d'aller fouiller un petit peu sur Internet. J'ai dit, un séraste, c'est quoi ça? Après ça, j'ai dit, un pâturon du cheval, c'est quoi ça? Et je vous le montrerai, ceux que ça intéresse, je vous le montrerai. Un cérace, c'est un serpent venimeux. J'ai trouvé le avec deux petites cornes. Et un pâturon de cheval, c'est la patte du cheval, mais dans la partie basse, en arrière, ici, en arrière de la patte, ils appellent ça le pâturon. Autrement dit, c'est pour montrer que les descendants de Dan vont être des gens très habiles au point de vue diplomatique. Et ceux qui sont en puissance, qui sont montés sur un cheval, un symbole de puissance, lui, va être... Mm-hmm. Il va aller mordre au pâturon. Mm-hmm. Et celui qui est en puissance va s'écrouler à cause de l'habileté de Dan. Alors, Dan bénéficierait de la sagacité politique. Qu'est-ce que ça veut dire, sagacité politique? Ça veut dire de la finesse d'esprit, du discernement, de la lucidité. Si vous prendriez le temps de regarder l'avenir de la tribu de Dan dans le reste des Écritures, vous verriez que c'est une tribu qui, justement, était fort en diplomatie. Mais fort pour faire tomber des plus forts que lui, mais en étant très, très... comme un séraste. Et ils vont tranquillement, puis même... Il pogne en arrière d'eau pâturon, le cheval s'écroule. Donc, autrement dit, par la finesse d'esprit, par le discernement, par la lucidité, il va comprendre facilement les situations et va agir en conséquence en utilisant la subtilité du serpent pour conquérir des ennemis plus puissants que lui. Intéressant, parce qu'on ne voit pas nécessairement ça à la première, mais quand ceux qui ont étudié plus en profondeur, ils nous disent que c'est ça que ça veut dire, puis si tu prends le temps d'aller regarder dans le reste des Écritures, si c'est ça que la tribu de Dan a fait, oui, c'est ça que la tribu de Dan. C'est de cette façon-là que la descendance des tribus de Dan ont agi. Sur Gad, verset 19, « Gad, des troupes l'attaqueront, mais lui, il attaquera leur arrière-garde. » Il est en train de dire que la tribu de Gad, ça va être une tribu guerrière. Elle va être constamment exposée aux incursions et aux pillages de deux groupes particuliers, les Moabites et les Ammonites. Puis il dit, mais finalement, les descendants de Gad vaincront leurs ennemis et les repousseront. Ça aussi, ça sera vérifiable dans le reste des Écritures. Gad, il dit, des troupes l'attaqueront. Autrement dit, ils vont être attaqués par les Moabites et les Ammonites. Mais, lui, il attaquera leur arrière-garde. Autrement dit, ils vont venir à bout. Ça va être des guerriers. Alors, si on étudierait toute l'histoire d'Israël à partir juste du chapitre 49, on verrait jusqu'à quel point les Écritures sont riches. Et après ça, on parle de Aser. Il dit, d'Aser viendra le pain savoureux et il fournira des délices royales. Alors, la tribu d'Aser vivra dans la grande prospérité du pain savoureux et des délices royales. Les délices royales, autrement dit, c'est des choses que les rois ont, des délices royales. Alors, ça va être des tribus qui vont être productives de pain délicieux et de délices royales. Alors, si on regarderait les descendants de la tribu d'Aser, dans l'histoire, on verrait que les choses... Même, t'es à peu près certain que les descendants de la tribu d'Aser... des Juifs encore aujourd'hui, c'est encore des caractéristiques de ce groupe-là. Et la dernière, c'est sur Nephtali. Il dit, Nephtali est une biche élancée. Il prononce d'élégantes paroles. Alors, la tribu de Nephtali serait rapide dans les opérations guerrières. Quand on parle comme une biche, ça roule. Hein? Vous l'avez déjà vu. Quand c'est énervé un petit peu, je dis que tu n'as pas le temps de l'énerver longtemps que... Elle se pousse, comme on dit. C'est rapide. Alors, il va être rapide dans les opérations guerrières. Et ça va être des gens, parce qu'il dit, il prononce d'élégantes paroles. Autrement dit, ça va être des gens qui vont être caractérisés par leur habileté dans les arts oratoires, dans la littérature, dans la poésie et dans l'expression écrite. Si vous prendriez l'histoire des Juifs, puis vous regarderiez... lequel parmi les Juifs ont des qualités de prononcer des élégantes paroles, soit par écrit, soit verbalement, vous verriez que la grosse majorité viennent de la tribu de Naphtali. Intéressant, hein? Que Dieu permet à Jacob de voir l'avenir de ses fils et de voir les caractéristiques des descendants, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme caractéristiques. Alors, on va faire quatre applications très rapides pour montrer que quand on lit un texte, il y a des choses qui s'appliquent à nous aujourd'hui. La première, c'est que l'Éternel est le maître de la destinée des individus et des nations. Et tous les décrets de Dieu sont remplis de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous l'ai déjà dit souvent dans le passé. Accueillons les circonstances providentielles que Dieu nous envoie comme venant de la main de Dieu lui-même. Deuxièmement, n'oublions jamais que les conséquences de nos péchés peuvent s'étendre sur nos enfants et sur plusieurs générations. On vient de le voir. Ruben, il a fait une méchante gaffe, puis ça a eu des conséquences sur lui et sur toute sa famille à l'époque et sur ses descendants après lui. La même chose pour Siméon et Lévi. Troisièmement, le Seigneur sait distribuer avec sagesse les dons spirituels à ses enfants, de manière à ce que l'Église progresse dans son ensemble par les forces et les dons de chacun. Autrement dit, tout et chacun qui est un véritable chrétien, la Bible nous dit que Dieu nous a donné à tout et chacun un don spirituel. Et le don spirituel qui nous a été donné, c'est pour faire profiter les autres autour de nous, de notre don. Alors ça, c'est une chose qu'on voit, le Seigneur donne des choses différentes à chacun des enfants. Et quatrièmement et dernier, cherchons Christ en lisant les Saintes Écritures. On pourrait lire ce passage-là et même pas percevoir Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ce que je dis là? On peut lire un passage comme ça et pas voir Jésus-Christ, pourtant il est là. Il est là à deux endroits de façon très, très précise. Verset 10, quand il parle du silo, qui représente le Christ. Et le verset 18, quand il dit « recevoir le salut » au verset 18. Alors, il parle à la fois de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ à l'intérieur du passage. Puis ça peut arriver qu'on le lise et qu'on le voit même pas. Ça démontre une chose, c'est qu'on lit toujours les Écritures trop rapidement. Ça démontre une autre chose, c'est qu'on les médite pas assez. Puis ça démontre une troisième chose, c'est qu'on ne les étudie pas assez. Parce que là, ça fait deux semaines qu'on fait sur le chapitre 49. Puis moi, je vous garantis que ça serait facile de faire 100 sermons juste sur ce passage-là. Un chapitre. C'est parce que c'est tellement riche qu'on ne peut pas tout développer, aller dans tous les sens pendant deux heures parce qu'on n'a pas de temps. Mais si on pouvait le faire, ça démontre une chose, c'est quand on lit les Écritures, il faut prendre le temps. Demander à Dieu de nous donner le goût d'aller plus loin dans l'étude des Écritures. Et c'est là qu'on découvre des choses tellement, on est tellement renversé de voir que quand on dit que les Écritures sont inspirées de Dieu, sont soufflées de Dieu, tout ce que Dieu dit là-dedans, c'est la pure vérité et ça contient l'avenir des 12 tribus à venir jusqu'à la fin. Hey, ça fait longtemps là. Et Dieu dit des choses, des vérités sur les tribus d'Israël qui vont jusqu'à la fin. Alors, c'est d'une richesse inouïe. Alors, des fois, on manque le bateau, des fois, en lisant ça trop rapidement. Ah, je comprends rien. Mais ouais, mais peut-être que tu t'étudierais, tu comprendrais. OK, que le Seigneur Jésus soit loué, béni et adoré éternellement. Amen.